L'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, fait couler beaucoup d'encre. Elle est devenue obligatoire à partir de cette rentrée. On en parle, sur fond de contestation, avec Pavel Kunisch de la Fédération PRISM, la Fédération LGBTQI+, en Wallonie-Bruxelles.
La première, le fin mot, Eddy Kettelbergs.
Des petits comme ça, ce qui les intéresse, c'est de jouer, c'est d'apprendre, de se rencontrer. Ce n'est pas des sujets qui, je pense, les intéressent ou même qui s'en préoccupent.
Les spécialistes, c'est les parents, je vous le rappelle. Nous, en tant que parents, on connaît mieux nos enfants que eux. C'est nous qui allons répondre donc aux questionnements de nos enfants. Les spécialistes, ils donnent son avis et puis ils rentrent chez lui. Nous, on va vivre avec eux.
Ça existe déjà, c'est vrai, le PMS a ce rôle-là dans les écoles. Effectivement, jusqu'à présent, ça fonctionnait en fonction des questions des enfants. Mais aujourd'hui, on pousse les choses un peu trop loin. Pourquoi on ne reste pas sur la base de la vie en société ?
Bonsoir, Pavel Kunisch.
Bonsoir.
Alors, on va parler évidemment de lutte contre la désinformation concernant ce dossier EVRAS, éducation à une vie relationnelle, affective et sexuelle. On a le sentiment maintenant que l'on déverse une tonne d'heures sur la tête des enfants qui fréquentent les écoles. En fait, c'est quoi la réalité et le volume déjà de cet EVRAS ?
Oui, c'est ça. C'est un bon point de départ, parce que c'est vrai qu'on a vu pas mal de réactions. On pourrait croire que c'est énorme. En réalité, ici, on parle de 2 fois 2 heures, donc 4 heures sur un cursus de 12 ans. Donc c'est vraiment très très peu, c'est même trop peu en vérité pour traiter véritablement de tous les aspects de la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais voilà, oui, c'est bien 4 heures d'éducation donc à ces 3 thématiques.
2 heures en primaire, 2 heures en secondaire pour faire court.
Exactement, oui, c'est ça. Et donc,
qu'est-ce qu'on a loupé dès lors que j'ai le souvenir que moi-même, et je ne suis pas un perdreau de l'année, lorsque j'étais en secondaire, le prof de biologie, nous donner un cours sur les organes reproducteurs et en profiter pour nous faire, alors certainement avec moins de psychologie, etc., nous prêter quelques livres, c'était plus discret et moins organisé. Mais en fait, c'est comme si c'était une bombe nouvelle qui nous tombait dessus. Est-ce que c'est si nouveau que ça ?
En fait, pas du tout. C'est-à-dire que ça fait plusieurs dizaines d'années en fait, que des cours s'organisent d'une façon ou d'une autre, soit par effectivement, des professeurs en place, soit par des organisations qui viennent dans les écoles, pour dispenser parfois 1 heure, parfois 2 heures, souvent plutôt orienté vie sexuelle, mais pas seulement. Et donc, effectivement, c'était pendant longtemps quelque chose qui était laissé à l'appréciation des établissements. Et en fait, à partir de 2012, c'est devenu une tâche reconnue pour les établissements de former à l'EVRAS. Donc ici, ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'on a structuré ces interventions, qu'on a essayé d'harmoniser, en fait, dans tous les établissements, pas tout à fait le contenu, mais qu'on a donné des guides et un volume minimal qui serait donné à tous les étudiants et étudiantes.
Alors, toujours pour aller vers la bonne compréhension des enjeux, vous le disiez, effectivement, jusque-là, c'était sans doute plus orienté sexualité, parfois question de genre, mais on faisait peu la différence à l'époque de manière aussi marquée. C'était notamment aussi le cas au moment des années SIDA, lorsqu'il a fallu informer sur les maladies sexuellement transmissibles, sur ces choses-là, par ailleurs sur la contraception et autres. Aujourd'hui, évidemment, le champ peut être plus vaste. La vie relationnelle, c'est aussi, on l'a beaucoup entendu, la question du respect de l'autre.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que je pense que depuis au moins 10 ans, si pas 20 ans, ces animations qui ont pu se donner à les écoles, elles traitent effectivement potentiellement de sexualité, mais suivant les établissements, on a pu inviter aussi d'autres acteurs à venir s'exprimer sur les questions relationnelles, dont des questions de lutte contre l'homophobie, contre la transphobie, de sensibilisation à toutes sortes d'identités, de réalités.
De consentement.
C'est le consentement, tout à fait, exactement. Et on parlait effectivement de contraception, mais aussi de toutes sortes de pratiques et de rapports, et notamment ce qui a émergé de plus en plus, c'est aussi le rapport aux médias et aux réseaux sociaux, et donc notamment à comment on s'expose sur les réseaux sociaux, à comment on échange ce type de photos.
Le risque des sextapes aussi.
Exactement. Et ça traite aussi des questions d'harcèlement. Il y a pléthore, en fait, de sujets qui peuvent être traités à travers ces animations, ou qui ont été traités par ailleurs, mais de façon très disparate suivant les établissements.
On entend ces jours-ci, parmi celles et ceux qui se mobilisent, alors sans doute qu'il y a une lumière médiatique sur eux et sur elles qui fait qu'on surestime le groupe aussi de contestataires, mais enfin, on entend, et notamment dans le registre des mosquées dépendant de la Turquie, mais aussi dans un certain nombre de milieux catho-tradis, on entend des propos du genre « ils vont apprendre ou obliger nos enfants, nos jeunes fils à se masturber en classe devant du porno ».
Oui, tout à fait. On entend beaucoup en fait, de désinformation à proprement parler. On a aussi entendu beaucoup de propos très homophobes, très transphobes par rapport à ça, avec ce fameux lobby LGBT ou la théorie du genre qui menacerait nos enfants, qui les corromprait. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas. Ici, on parle bien de sensibilisation. C'est plutôt en fait, un outil
d'éveil, de compréhension,
oui, d'éveil, de compréhension, puis de santé publique en fait, hein, et de d'amener à plus de compréhension des uns et des autres et de soi-même. Et je pense que dans ces populations qui interviennent, on a pu l'identifier. Bah d'ailleurs, la RTBF a fait un reportage là-dessus. On a pu identifier au moins trois populations. Hein. Il y a des populations qui sont effectivement, comme vous l'avez dit, plutôt des conservatismes religieux. Et là, il y a quand même, faut le dire, une grosse influence de lobbies français. Et là, des vrais lobbies, des vraies associations.
Civitas,
on pense
interdit en France, d'ailleurs.
Exactement. L'Observatoire de la Petite Sirène, qui est un organisme psychanalytique particulièrement transphobe et virulent, qui agite beaucoup ça. Et rien que de voir des organismes français venir intervenir sur l'Evras en Belgique, c'est quand même interpellant. Et prendre la parole, notamment dans les manifestations à Bruxelles. Mais on voit aussi, par ailleurs, toutes sortes de parents qui sont bien légitimes dans leurs interrogations, qui peuvent être un peu désinformés justement par toute cette flopée de choses et qui peuvent, qui ont besoin d'être rassurés, je pense. Et il faut pouvoir le dire. C'est évidemment pas du tout le cas. On ne va pas pratiquer des choses avec les étudiants. On ne va pas leur apprendre à faire des choses. Tout ce qu'on va les sensibiliser à avoir des rapports plus sains à leur corps, au corps des autres, de façon générale aux relations sociales et affectives.
Qu'est-ce qu'on a loupé, en fait, pour que l'on voit cette déferlante de fausses informations, de fake news, comme on dit maintenant ? Parce que, certes, je pense que beaucoup n'avaient pas vu venir la contestation qui s'est levée, la virulence des propos tenus. Mais enfin, est-ce que l'on a de l'autre côté péché, selon vous, par un manque d'information au point que des parents restent sensibles, en alerte, à ce point désinformés ?
Je ne sais pas si on n'a pas suffisamment informé, parce que je pense que c'est assez étonnant d'une certaine façon, parce que ces parents même, bien souvent, ont eu ce type d'activité, mais ne les identifient pas forcément comme ça. Peut-être qu'on a trop cru à une nouveauté, justement, à quelque chose de très nouveau, de quelque chose qui arrivait de nulle part et qu'on allait imposer, etc.
Alors qu'on ne faisait que cadrer ce qui existait.
Qui existait. Et en fait, ce cadrage est bien plus sain que ce qui se passe finalement à l'heure actuelle, parce qu'on a des témoignages dans des écoles, de personnes qui ont prôné dans ce type d'activité n'avoir aucune relation sexuelle et que c'était la seule solution, par exemple, alors que, bon, enfin voilà, on n'est plus dans les années 50 non plus, on sait très bien que ça se passe, on sait notamment que le rapport au porno, il se développe à partir de 11 ans en moyenne, et que si on met pas en place des choses face à ça, ces jeunes sont en fait livrés plutôt à eux-mêmes et à des conseils qui sont pas toujours, qui sont en tout cas pas du tout harmonisés et pas du tout cadrés par des gens qui sont véritablement formés à ces questions.
Alors vous intervenez effectivement, Pavel Kunich, au titre de Prisme, hein, Prisme qui est une des fédérations, la fédération wallonne LGBTQIA+. C'est toujours compliqué de les aligner les unes après les autres, ces lettres, mais on a bien compris que cela couvre l'ensemble des sensibilités de genre sur l'homosexualité, féminine, masculine, indéterminés, transgenres et autres. C'est effectivement une des cibles fortes. Hein. On dit que vos milieux, si vous êtes invité, par exemple, parce que ça pourra toujours être le cas, si vous êtes invité à venir donner une information dans le cadre de ces heures, ces quatre heures sur l'Evras, vous seriez susceptible de vouloir pervertir et convertir. D'abord, est-ce qu'on convertit ?
Alors évidemment qu'on ne convertit pas, ça n'a aucun sens.
Il faut encore le répéter.
Je pense qu'il faut le répéter, il faudra le répéter tant qu'il faudra. On ne convertit ni rien ni personne, on ne fait que qu'informer et sensibiliser.
En plus, on est depuis la naissance.
Tout à fait. Et je pense que il faut effectivement le rappeler. Ce n'est pas quelque chose qu'on choisit, mais bien quelque chose qu'on est transgenre, on est homosexuel. Et ce n'est pas une question d'effectivement convertir, mais bien de sensibiliser. Sensibiliser à la fois à la possibilité d'être, d'avoir des mots pour se qualifier, pour qualifier son expérience, etc. Et d'autre part, pour sensibiliser les personnes qui ne font pas partie de ces communautés, mais qui sont amenées à côtoyer toutes sortes de personnes homosexuelles, transgenres, dans leur famille, dans leurs amis, etc.
Voir à
l'école, bien sûr. Et quand on voit le nombre de crimes encore, quand on voit le nombre d'agressions, quand on voit la peur qui peut encore exister dans toutes les populations LGBTQIA+, on se dit que c'est vraiment pas du luxe, en fait, de pouvoir sensibiliser. C'est pas du tout un plus. Enfin, si, c'est un plus, mais ce n'est pas un surplus ou une position très idéologique. C'est simplement une position de lutter contre l'homophobie et la transphobie, qui, elles, sont bien des idéologies, pour le coup.
Alors, dans votre communiqué de fédération, Prisme souligne que, je cite, « l'EVRAS fait déjà partie des missions obligatoires de l'école depuis 2012, mais que de nombreux élèves n'en ont pas encore bénéficié ». Qu'est-ce qui va changer fondamentalement dès lors qu'on sait que les moyens sont limités, qu'il y a un problème de personnel, qu'il y a un problème de budget, etc. Est-ce que le simple fait que le Parlement et le gouvernement aient décidé qu'il y aurait va fondamentalement, effectivement, permettre qu'il y ait ?
Alors, il y a quand même pas mal de choses qui ont été mises en place. Donc là, maintenant, les écoles doivent faire ces...
Tout réseau confondu ?
Oui, a priori. C'est bien toutes les écoles qui devront se plier finalement à ces 4 heures, encore une fois, sur 12 ans. Maintenant, il y a un choix qui est possible par les établissements, dans les personnes qui pourront intervenir. Il y a toutes sortes d'organisations qui vont être labellisées et qui sont déjà labellisées EVRAS. Certaines organisations font effectivement partie de notre fédération, par exemple. Je pense à Crible, je pense au Chef, je pense au Gris aussi, qui va bientôt l'être, qui est un de nos projets. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres organisations qui traitent d'autres sujets aussi, et les établissements sont aussi libres de faire appel à ça, à différentes organisations. Donc c'est aussi à l'appréciation, finalement, de ces établissements.
Des établissements qui se sentent quand même probablement aussi un peu en difficulté maintenant, dès lors qu'on a vu des écoles incendiées, parce que, voilà, on allait y donner ces perversions de l'EVRAS. Est-ce que vous avez eu des retours de terrain de responsables d'école qui vous disent « Ouh là là, restons prudents, différons peut-être ».
Alors, à ce stade-ci, non, on n'a pas. Enfin, en tant que fédération, nous, on n'a pas forcément toujours de contact avec le terrain directement. C'est plus nos associations qui vont l'avoir. Maintenant, jusqu'à présent, on est rassurés. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que les écoles sont plutôt convaincues de l'intérêt de ça. Aussi, ils sont bien conscients du faible volume que ça représente et de la disproportion de ces réactions.
Parmi les réactions, vous l'avez dit, les voix qui se sont exprimées, notamment venant de France, et pas que, on soupçonne même que certains responsables américains, non loin de QAnon et d'autres activistes du genre, ne soient présents en termes de subsidiation de ces mouvements, souvent aussi liés aussi à une forme d'extrême droite militante. Mais ces voix ont exprimé beaucoup de propos homophobes et transphobes. Il me semblait que jusqu'ici, la loi condamnait de tels propos. Est-ce que des plaintes vont être déposées ? Ont été déposées notamment par les fédérations et associations sur les propos tenus ?
C'est-à-dire que pour le moment, on ne l'a pas fait, parce qu'aussi on a énormément de dossiers à traiter, des dossiers qui sont aussi autrement plus importants pour nous que de condamner des associations qui sont déjà condamnable et problématique, mais je pense notamment au procès de M.By Wade à Liège prochainement. Mais c'est vrai qu'on le considère. C'est inadmissible de pouvoir voir ce type de propos tenus encore aujourd'hui, de le voir au milieu d'une manifestation à Bruxelles, de le voir dans ces cadres-là, c'est pas possible. Après, il faut aussi savoir que ces associations, ces organisations sont aussi assez bien structurées et sont très malines, connaissent aussi les limites de la loi et savent jouer sur les mots et les attitudes pour que ça soit difficilement en contradiction avec la loi, mais on connaît très bien le contenu. Le message passe pareil.
Qu'est-ce qu'on peut dire en classe où des clivages existent, des tensions existent, on le sait. Qu'est-ce que l'on peut dire qui viendrait potentiellement heurter tel sentiment religieux, tel propos tenu dans tel cadre religieux ou dans tel cadre familial ? Comment est-ce qu'on peut, au nom de quelle autorité, pourra-t-on mettre en place une véritable compréhension par l'enfant si l'enfant dit, face à ce que vous viendrez potentiellement raconter ou ce que d'autres enseignants raconteront, c'est pas vrai, mon père dit l'inverse, le curé ou l'imam ou dit l'inverse, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment arriver à convaincre ? Dès lors que vous nous dites que la Belgique est progressiste mais subit toujours et encore les attaques.
Je pense qu'effectivement, déjà, se baser sur les réalités, les statistiques, les éléments, on en a toute une série hein, d'éléments très, très problématiques qu'on peut mettre en place, qui ne sont pas contestables. C'est-à-dire, quand on sait qu'en 2019, l'Agence des droits fondamentaux de l'UE révélait encore que 24,6% des personnes LGBTI interrogées en Belgique disaient éviter encore souvent ou tout le temps de tenir la main de leur partenaire en public, ou que 39% des répondants avaient déclaré avoir subi une discrimination et 42% du harcèlement LGBTI, 42% avaient subi du harcèlement LGBTI-phobe. Donc c'est quand même énorme, c'est des très gros chiffres. Quand on voit les meurtres véritables qui sont encore réguliers, je pense, voilà, on a Issane Jarfi qu'on connaît bien, hélas, mais aussi Nathalie Daillet et Anne-Laurence Durvio en 2021. Je parlais encore de M. By Wade récemment. Ceux-là sont des cas qui ne sont pas contestables. Ils sont là. Par ailleurs, je pense que c'est quand même important de dire qu'on n'est pas là pour convaincre à proprement parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas une question d'idéologie. On n'est pas là pour convaincre, on est là pour donner, ben voilà, c'est fait, mais donner aussi des outils pour comprendre et pour discuter. Et donc moi, par exemple, il y a plusieurs années, avant d'être dans la fédération, je travaillais avec l'association Crible. Et sur le terrain, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait discuter les étudiants entre eux. C'est-à-dire on leur faisait parler de leur vécu, dans une optique de déconstruire les stéréotypes de genre. C'est-à-dire de faire parler de qu'est-ce que le fait d'être identifié comme homme ou comme femme faisait, permettait ou ne permettait pas. Et en fait, nous amenions finalement relativement peu de contenu par rapport à ce qu'amènent les étudiants. Et dans la confrontation de personnes qui se connaissent déjà entre elles, je pense qu'il y a pas mal de choses qui émergent et d'intercompréhension.
On va redonner quelques chiffres. Hein. Donc, le budget, c'est un financement de 4,8 millions d'euros par an pour la région Wallonne et pour la COCOF. Les centres de planning familial de Wallonie et de Bruxelles seront les principaux opérateurs, mais pas que. Mais donc, ils feront appel évidemment aux partenaires. Séances obligatoires dans les écoles pour tous les élèves en 6e primaire et 4e secondaire. Un label EVRAS pour les intervenants, commun au secteur de l'enseignement de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse pour garantir la qualité des animations. Donc, il y a véritablement là une forme d'inspection ou de labellisation qui est mise en quelque sorte en route. L'obligation de réaliser au minimum une animation dans toutes les classes de 6e et de 4e secondaire, de 6e primaire et de 4e secondaire de Wallonie et de Bruxelles. Mais effectivement, cette question, toujours récurrente, est-ce que vous serez en mesure d'assurer le suivi ? C'est-à-dire que vous allez aller à une séance, ces enfants pendant 2 heures vont avoir, ou 2 fois 1 heure vont avoir un éveil, que se passe-t-il après ?
Ça c'est une bonne question, je pense que déjà Ça se répond par la formation aussi des enseignants et des corps enseignants. Ça, c'est au niveau de la fédération, c'est clairement un des axes qu'on défend, c'est la formation de tout le monde, pas seulement des étudiants, parce que
les centres PMS,
des centres PMS aussi, des personnels d'accueil dans toutes sortes de services, etc., qui ne sont pas particulièrement plus éveillés sur les questions que les étudiants qu'on va voir. Donc ça, c'est
est-ce qu'il faudrait une personne, un référent, par exemple, ou une référente par école, par établissement?
Ça pourrait être une stratégie, mais je pense que la meilleure stratégie, c'est que tout le monde soit formé et soit conscient. Et par ailleurs, je pense aussi que 2 fois 2 heures sur 12 ans, encore une fois, donc c'est un volume, je crois que ça représente 17 000 heures, donc ce n'est rien du tout, c'est évidemment pas assez. Nous, on le voit sur le terrain, les animations qui ont un effet, qui font un peu boule de neige, qui permettent d'aller un peu plus loin dans les discussions, souvent on a besoin de plusieurs séances sur quelques semaines, parce que ça permet en fait d'aller plus loin, de faire s'exprimer, de créer un lien de confiance aussi entre les gens qui interviennent, que 2 heures dans une classe, c'est très très vite passé en fait. On arrive un peu comme des étrangers, évidemment, dans ces classes.
Et le champ est vaste.
C'est ça, exactement.
Ce que vous avez brossé comme sujet à aborder.
C'est ça, les 4 heures ne sont pas consacrées à la lutte contre l'homophobie et la transphobie, très très loin de là. Il faut brosser toutes ces questions de vie sexuelle, affective et relationnelle qui sont toutes extrêmement importantes.
Respect de soi, respect de l'autre, consentement, prise en charge, santé.
Ça, exactement. Et tout ce qui est...
Résister aux pressions, résister aux sollicitations malsaines. Il y a beaucoup de choses. Hein.
Mais c'est ça, c'est exactement. Et encore une fois, je parlais des réseaux sociaux, on peut parler du rapport au contraceptif. Vraiment, toutes sortes de choses qui peuvent être abordées, qui doivent être abordées pour avoir une véritable éducation, une véritable EVRAS. Mais ces 4 heures sont évidemment trop peu. C'est un bon début. Ça cadre mieux les choses, mais on sait très bien que ça ne sera pas suffisant pour traiter tous ces enjeux-là.
Dans un communiqué conjoint, Soralia, Sophelia et Solidaris se sont réjouis de l'adoption de l'accord de coopération EVRAS, déplorent évidemment la contestation et ils disent, je cite, « Ne nous laissons donc pas berner, cette polémique n'est qu'une énième opportunité de récupération pour les mouvements extrémistes ». Vous partagez cette...
Oui, tout à fait. C'est évident que c'est un autre, c'est juste un axe qui est pris, dont s'empare. Et quand je parlais encore une fois de ces associations françaises, pourquoi elles débarquent sur le territoire belge au point qu'il y a des Français qui ont commencé à parler d'EVRAS en France, alors que l'EVRAS est un phénomène belge, est un acronyme belge, c'est que c'est une opportunité pour faire parler de soi, pour diffuser là un agenda et une idéologie très très claire, qui est une idéologie de droite, conservatrice et clairement homophobe et transphobe. On ne peut pas s'en cacher, je pense. Il faut pouvoir se dire que c'est effectivement des opportunités pour ces mouvements-là. Et il faut voir clair là-dedans et dans la manipulation qui est opérée.
Et pourtant, il ne faut pas pour autant cesser de parler. Il ne faut pas les museler parce que c'est une autre façon de garantir en quelque sorte par complotisme qu'ils avaient peut-être raison sur certains points. Et il faut continuer à informer. C'est donc beaucoup de boulot. On souligne que la détermination des ministres concernés, Christy Morréal et Caroline Désir, étaient très fermes en disant « nous maintiendrons ». J'oublierai aussi Barbara Tracht, évidemment, au titre de la COCOF. Merci, évidemment, de ces premières positions. On sera attentif au développement avec tous les acteurs qui vont intervenir dans ce dossier. Merci d'être venu ce soir nous donner le fin mot.
Je vous remercie.